plus d'excuses. Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail et pour une égalité réelle dans la culture et l'économie sociale et solidaire. Un magazine produit par les radios de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne, en DAB+.
Bonjour à toutes et à tous. Détricoter la mécanique du sexisme, identifier les comportements déplacés au travail et savoir comment y répondre, c'est ce que propose la fresque du sexisme, cet atelier d'intelligence collective qui fait son chemin dans le milieu professionnel. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Marie-Noëlle Kergosien, facilitatrice de cette fresque du sexisme auprès de différents publics. Mais avant, présentation de cet atelier lors de la rencontre régionale d'action contre le sexisme à destination des structures de l'économie sociale et solidaire en Bretagne, une journée organisée par la CRES en décembre 2023.
Aujourd'hui, on va vous faire une introduction sur ce qu'est la fresque du sexisme. C'est pas la fresque qui dure 3 heures et demie. On est sur une présentation de ce que peut être l'atelier pour vous donner une idée et éventuellement que vous ayez envie de l'importer dans vos structures.
On va faire une première partie qui est la partie théorique de l'atelier. On va vous la faire, plutôt que vous la faire faire, mais la deuxième partie, on va la vivre ensemble.
Je suis Maïka Billard, je suis facilitatrice de la fresque du sexisme, qui est un atelier de sensibilisation au sexisme, comme son nom l'indique. Le but de la fresque, c'est de sensibiliser tout public, adulte, curieux, sur les questions de sexisme. Et donc, dans cet atelier de 3 heures, on commence par poser les concepts que sont les préjugés, les stéréotypes, les discriminations, et puis comprendre comment tout ça s'articule en un système. Et on déroule ensuite les conséquences que ça peut avoir, que ça a, dans la vie quotidienne, en termes d'organisation de la société, mais aussi en termes d'injonctions reçues par les uns et les autres, les unes et les autres, parce que hommes comme femmes, nous recevons des injonctions.
Donc ce premier lot, on le confie aux participants et participantes, et ils et elles sont invités à prendre connaissance des concepts qui sont décrits dessus. Et donc on a la catégorisation sociale, les stéréotypes de genre, les préjugés, les comportements genrés, la discrimination sexiste. Et le but du premier lot, c'est que les participants et participantes échangent entre elles et eux pour réussir à reconstituer les liens qu'il y a entre ces différents concepts. Et donc on est là sur le principe d'une mécanique qui a été travaillé par Marine Spack sur le principe même de la mécanique du racisme. Et donc là, l'objectif pour le groupe, c'est de se rendre compte qu'on est bien dans quelque chose qui s'auto-entretient, qui est mécanique, et que donc tout le but là de la fresque, ça va aller de travailler comment on peut enrayer cette mécanique qui a tendance à s'auto-entretenir.
Le dernier lot de la phase théorique, c'est la notion des impacts et des conséquences. On a des impacts économiques, des impacts physiques, des impacts sociaux, des impacts psychologiques. Et sur ces différents impacts, on partage un certain nombre de cartes non exhaustives. Il fallait qu'on s'arrête à un moment donné sur les conséquences des impacts.
Une fois qu'on a bien pris conscience de tous ces concepts-là et de l'organisation de l'impact que ça a dans notre organisation sociale, on a une deuxième partie de fresque qui est une mise en mouvement, une mise en action, où là on réfléchit collectivement, puisque c'est un atelier d'intelligence collective, on vient réfléchir à quels sont nos leviers d'action en termes collectifs, mais aussi en termes individuels. Et on a un moment de réflexion autour de différentes thématiques, et puis un moment de théâtre forum, en tout cas de réflexion sur quand on a identifié une situation sexiste, qu'est-ce qu'on peut faire nous à l'échelle individuelle ou collective pour enrayer cette mécanique ? Et la boucle est bouclée.
Donc, par groupe, on vous demande d'imaginer des actions collectives à mettre en place sur ces leviers. Parce que chaque levier peut auto-entretenir la mécanique, mais comme on l'a vu aussi, faire justement effet levier pour l'enrayer. Donc l'idée là, c'est vraiment de partager entre vous et de trouver des solutions collectives sur ces thématiques-là. Et on vous laisse 5-6 minutes.
Là, c'est l'humour. Sous couvert de l'humour, les blagues sexistes participent d'un sexisme ordinaire et insidieux qui sexualise et disqualifie les femmes. L'humour alimente les stéréotypes. Là, on doit réfléchir à quelle action ?
À des actions pour sortir de situations sexistes ?
Ouais, de ces blagues sexistes, quoi.
Bah, en fait, c'est difficile, je trouve, parce que souvent, c'est une manière de s'intégrer pour les femmes aussi dans un milieu masculin où il y a des blagues sexistes, de participer ou rire à ces blagues-là pour se sentir peut-être inclus. Et donc, ça demande déjà de faire preuve de courage, je trouve, de dire, en fait, ça me fait pas rire. Mais enfin, c'est l'idéal de faire ça, je trouve, peut-être de trouver une collègue alliée pour... prendre la parole ensemble et dire ça n'est pas drôle et ça participe de ça. Mais je trouve que ça fait peser sur la femme aussi un risque d'exclusion au travail. Enfin, je sais pas si c'est...
Si, c'est très clair.
J'ai vu aussi, moi, le cas où on masculinise la blague, en fait. On la répète, mais en inversant complètement et en général, ça rigole beaucoup moins. Et du coup, ça permet d'ouvrir la discussion en disant bah tu vois il y a deux secondes on en riait et puis là on en rit plus pourquoi en fait.
Dans un groupe d'amis, moi c'est un copain qui a posé la question au copain qui venait de faire une blague sexiste, lui a demandé excuse-moi j'ai pas compris pourquoi c'est drôle, qu'est-ce qui est drôle, mais ça passait bien parce que c'était entre deux hommes quoi.
Effectivement. Ouais, du coup en mode ami ouais, c'est clair, mais je trouve, enfin pour ajouter à ce que tu disais, parfois on se rend même pas compte. Et tu rigoles, et là tu fais « Ah, mais en fait, c'est super sexiste ce qui vient de se passer, sauf que t'as déjà rigolé. » Du coup, c'est comment est-ce que tu reviens pour réagir, quoi.
Au milieu de l'atelier, on a un temps de partage de ces émotions parce que ça fait prendre conscience, cet atelier, de ce qu'on a vécu. On revit un peu son enfance, on revit aussi un peu les situations qu'on rencontre au quotidien, au travail ou dans la sphère familiale. Et on a besoin de poser les choses, de poser son ressenti. Et on a beaucoup d'expressions de colère, de dépit parfois, de tristesse, de « Ok, mais qu'est-ce que je fais moi maintenant ? Et quelle est ma force là-dedans ? Comment je peux agir ? » Et c'est là que vient le deuxième partie de l'atelier qui permet de redonner le sourire et de dire « Ok, ma colère, elle peut être transformatrice, ma honte peut être transformatrice, ma tristesse, je peux la transformer en quelque chose de positif et agir pour le bien commun. »
Alors, le groupe qui est là, puisque vous êtes encore en train de parler, je vais vous donner la parole. Quel levier vous aviez et quelle solution, piste d'action vous avez dégagée du levier ou des leviers que vous avez pu travailler pendant votre temps ?
Alors donc nous on avait la carte sur l'humour, comment est-ce que l'humour finalement reproduit la question du sexisme par des blagues sexistes et les stéréotypes que ça engendre. On a d'abord fait un tour et un constat que on n'a pas commencé par les leviers, ça a été se dire en fait c'est des choses qu'on subit et on a vachement mal à sortir de ces situations là. Parce que parfois on s'en rend même pas compte ou quand on est considéré comme la personne un peu rabat-joie du groupe quand on réagit.
Non, c'était juste dit que c'était un peu, c'était carrément une charge aussi en fait à porter, même dans le milieu professionnel, ça peut créer une sorte d'exclusion en fait si on prend position en disant non, ce n'est pas drôle. Donc on s'est dit peut-être en outil que c'était de créer, enfin d'avoir des alliés. Des alliés hommes, parfois ça passe mieux aussi en fait, que ce soit un homme qui dise c'est pas drôle, c'est sexiste. Mais aussi des alliés femmes de s'entraider entre nous. Et puis il y avait aussi une autre idée de peut-être de refaire la blague, mais à l'inverse, c'est-à-dire de refaire une blague sexiste malheureusement, mais envers les hommes, quoi, et dire vous voyez, c'est pas si drôle.
Ça s'adresse, oui, à tous les publics adultes. Demain, on est en train de développer un outil pour les jeunes, plutôt collège, lycée. Mais on prend le temps de développer cet outil parce que cette réflexion sur le sexisme amène parfois des difficultés à prendre conscience de ce que l'on vit au quotidien et amène à des paroles qu'il est impératif de savoir accueillir. Donc le public jeune est un public cible à terme, mais aujourd'hui on est vraiment sur un public adulte, plutôt curieux et novice sur ces questions. On n'est pas du tout sur un système d'atelier destiné à des experts et expertes du sujet, donc chacun et chacune peut venir comme il est, comme elle est.
Par rapport au temps qui nous reste là, maintenant que je vous ai présenté les cartes, j'aimerais vous faire un petit exercice de théâtre forum qui permet notamment un peu de se rendre compte des choses et qui est tellement aligné avec mon intention pour porter ces sujets-là. Est-ce que vous êtes d'accord de tourner dans cet espace-là, les yeux fermés ? Je vais désigner parmi vous un vampire. Ok ? qui aura aussi les yeux fermés. Mais une fois qu'il est transformé vampire, il crie. Et puis quand, en fermant les yeux, il tombe sur le cou de quelqu'un, l'autre devient aussi vampire. OK ? Et donc quand il y a deux vampires qui se rencontrent, là, on redevient normal et on repose un cri de soulagement, là. Donc un cri parce qu'on a été agressé et qu'on est devenu vampire. Et quand on recroise un vampire, quand on est à deux recroisés, on repousse un cri, mais cette fois de soulagement. Aou ! Aou ! Dire ce qu'il a ressenti à échapper au vampire, à essayer de, enfin voilà, à essayer de ne, dans votre déambulation, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là?
Moi, j'étais nommée premier vampire et honnêtement, c'était désagréable pour moi. Donc donc là, j'avais qu'une seule envie, en fait, c'était de le transmettre à quelqu'un d'autre, de sorte à pouvoir en fait m'extirper en fait de ce rôle. Et j'avais peur, j'avais qu'une seule peur en fait, c'est que quelqu'un me touche et que je redevienne à nouveau vampire.
Ouais. Ok. Quelqu'un partage ce sentiment effectivement de peur de devenir vampire
Moi, j'étais trop contente et ça m'a donné du pouvoir dans mon. Enfin, en fait, j'ai eu plus peur de marcher. En fait, je marchais comme ça, puis j'ai fait ça, et là, j'ai fait oh, ok, je peux marcher comme ça, c'est fou.
Et effectivement, là, ce que ça permet de toucher du doigt, c'est comment c'est anxiogène d'être dans la situation du persécuté parce que on peut se faire croquer. Et on n'aime pas ça. Et comment, quand on arrive dans le rôle de l'oppresseur, il y a quelque chose, en fait, là, qui est agréable. Et oui, parce qu'on est genré, parce qu'on est éduqué, parce qu'on est hideux, parce qu'on s'est entièrement construit avec cette notion d'oppression. Je veux dire, on est dans le système, mais on y est. On peut pas dire, je suis complètement déconstruit, j'ai tout compris. on est forcément rattrapé par. Et donc ça parle de ça. Ce que l'on vit là, en termes d'émotion dans cet exercice, il parle de ça.
Flavie de Joria de TAC 29. Alors moi, j'étais très contente de participer à cet atelier parce qu'il y avait un aspect très, très concret. En fait, ce matin, c'est vrai que l'outil de la fresque, c'est un outil qui permet, c'est un outil d'animation qui permet du coup de parler de plein de sujets, puis surtout de faire du lien entre tous ces sujets. Et je trouve que j'étais curieuse de savoir justement comment, l'approche qui était amenée en fait sur le sujet. Et la petite surprise, je pense, ça a été d'avoir aussi d'autres, donc ils ont fait des petites capsules où on pouvait tester des outils d'animation, et ça c'était la surprise, je pense, de ce matin, notamment avec un exercice où on a joué au vampire. Il fallait qu'on ferme les yeux et qu'on se fasse vampiriser par un vampire, et ensuite le débrief c'était de savoir comment, quel ressenti en fait est-ce qu'on avait quand on était vampire ou pas.
Est-ce que ça vous donne envie justement d'aller plus loin pour pouvoir être capable aussi, vous, dans votre activité professionnelle, de pouvoir faire aussi ce genre de formation?
Ah oui, complètement, ouais. Ouais, ça donne envie d'aller plus loin et puis de se mettre dans cette posture-là aussi. Ouais. D'acquérir encore plus de compétences sur le sujet, de connaissances sur le sujet. Et ensuite d'aller voir des publics qui sont un peu moins. Qui sont concernés, mais peut-être moins alertes aussi. Et moi, ça m'a fait prendre conscience que j'avais pas mal de connaissances en fait sur le sujet. Et que du coup, effectivement, ça peut être une piste pour l'avenir, quoi.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur la fresque du sexisme, cet atelier d'intelligence collective pour savoir détricoter la mécanique sexiste, savoir agir et réagir contre les comportements déplacés en milieu professionnel. Un atelier qui était organisé à Brest en décembre 2023 lors de la journée de prévention du sexisme au travail dans les métiers de l'économie sociale et solidaire. Alors pour aller plus loin sur l'esprit de cet outil, mais aussi sur son retour d'expérience en Bretagne, nous sommes en liaison aujourd'hui avec Marie-Noëlle Kergosien, consultante, formatrice et conférencière à MNKSCOP à Vannes, et qui était en duo donc dans le reportage avec Maïka Billard dans le sujet que l'on vient d'entendre. Marie-Noëlle Kergosien, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, en entendant peut-être ce reportage, est-ce que vous retrouvez l'ambiance des sessions que vous animez généralement sur cette fresque du sexisme? Est-ce qu'on a été assez fidèle finalement à ce qui s'y passe généralement.
D'une certaine manière, oui, puisque l'atelier permet des interactions et laisse de la place à l'expression. Ce 12 décembre dernier, avec la Crèce, c'était une présentation qui n'était pas vraiment l'atelier lui-même, pour bénéficier à de nombreuses professionnelles de l'ESS, tandis que les ateliers sont limités à une douzaine de personnes et qu'il y a souvent des hommes qui y participent aussi.
Alors là, en plus, on était en présence d'un public qui était apparemment déjà bien sensibilisé à ces questions d'égalité, à savoir le monde de l'économie sociale et solidaire et de la culture en Bretagne. Ces ateliers sont-ils aussi bien vécus dans d'autres filières de métiers ?
Le bien vécu, c'est subjectif, ouais. Mais je dirais que c'est toujours un temps fort. Et puis par ailleurs, les facilitatrices remarque souvent que l'ambiance tient aussi selon que les participants sont libres d'y être ou contraints.
Et selon les filières, par exemple, de métiers, est-ce que vous remarquez finalement qu'il y a peut-être des filières de métiers qui sont peut-être moins sensibilisées à ces enjeux de l'égalité ?
Non, il y a des métiers où on pourrait avoir des a priori et en fait, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a déjà beaucoup de choses qui s'y passent. Parce qu'ils sont dans un groupe où il y a déjà eu des choses de mise en place, parce que leurs dirigeants ils sont eux-mêmes sensibilisés et il y a déjà eu du travail de fait et d'autres endroits qui pensent que tout est OK, donc de leur côté qu'il n'y a pas besoin et bon voilà, c'est la parole n'est pas forcément ouverte non plus quoi.
J'imagine que s'ils vous font venir, c'est effectivement qu'ils ont déjà cerné un petit peu les enjeux, ces enjeux d'égalité au travail.
Pour certains, oui, ils ont cherché des outils, ils ont entendu parler de celui-là. Pour d'autres, c'est par rapport à, aux démarches que nous faisons pour présenter l'outil. Et comme c'est un format particulier qui surfe aussi sur la dynamique de la fresque du climat et des autres fresques amies, ce côté intelligence collective suscite de la curiosité aussi.
Justement, vous parliez de la fresque du climat. Est-ce que cette fresque du sexisme s'est directement inspirée de cette fresque du climat qui existait déjà au préalable ?
Alors souvent, oui, les membres de l'association Fresque du sexisme étaient déjà animatrices de la fresque du climat. Et ce format ouvrant un espace d'intelligence collective et d'expression fonctionne très bien. Mais la fresque du sexisme se distingue. Autant la fresque du climat s'inscrit dans une progression linéaire des liens de causalité entre les activités humaines et le changement climatique. Là, la fresque du sexisme, elle s'ancre dans la compréhension de la mécanique sexiste en ayant fait des choix, concentrant l'attention sur certains éléments et qui alimentent cette mécanique.
Pourquoi avez-vous décidé-vous, Marie-Noëlle Cargosien, de finalement vous emparer de cet outil, de cette fresque du sexisme et de l'animer désormais largement en Bretagne ? Qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans cette méthode ?
Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, l'ambiance est porteuse pour transmettre des prises de conscience plus ou moins conséquentes pour les participantes et participants, d'une part. Et puis, d'autre part, le sujet étant complexe, nous sommes tous et toutes interdépendantes de ce système sexiste et il a l'avantage d'être visuel et nous permet de nous y situer efficacement.
On le comprend dans cet atelier, il y a trois étapes majeures qui sont décrites. Comprendre la mécanique du sexisme, ensuite identifier les différents impacts pour les personnes qui en sont victimes. Et puis ensuite, il y a une phase de mise en situation. Quel est le but d'une telle progression finalement pédagogique dans cet atelier ?
Une fois la compréhension du sujet posé avec son fonctionnement, ses causes et ses conséquences, nous avons un temps de recueil des émotions, de ressenti des participants et participantes pour permettre ensuite d'ouvrir la réflexion sur les leviers d'action, notamment repérer ceux qui peuvent être à notre main. Et ensuite, on tente quelques mises en situation. C'est à la fois réenchanter d'autres possibles et équiper chaque participant, chaque participante pour qu'ils puissent repérer de futures situations sexistes et adapter leurs réactions.
Vous parlez de recueil des émotions, c'est effectivement au moment justement de la mise en situation que peut-être des émotions peuvent surgir. C'est bien à ce moment-là que ça se passe.
Oui, après, en fonction des personnes, il y a des, on va dire, il peut y avoir des signaux ou des réactions significatifs, notamment quand il y a un partage sur les injonctions qui est fait, ça peut générer déjà des réactions. Donc, avoir un temps prévu et dédié pour pouvoir dégoupiller entre guillemets ce qui est en train de peut-être se profiler, c'est bienvenu.
Je reviens encore sur cette idée de recueil des émotions. Est-ce que c'est facile pour les participants et participantes finalement d'exposer un peu leurs émotions face à un public qui peuvent être leurs collègues de travail? Est-ce que c'est facile de le faire? Est-ce que ça arrive si souvent que ça qu'effectivement vous puissiez assister à des moments un petit peu d'émotion dans ces ateliers?
Il est certain que selon la culture de l'organisation, cela sera plus ou moins évident pour les individus autour de la table. Mais c'est là aussi que l'expérience de la facilitatrice rentre en ligne de compte afin d'adapter les outils qui favoriseront un cadre de confiance qui est posé dès le début de l'atelier.
Alors, on comprend aussi que dans cet atelier, assez nettement, que certains comportements au travail qui parfois paraissent anodins, ici on a l'exemple des blagues, sont en fait clairement des comportements sexistes. Ces comportements sont-ils, selon vous, encore très courants dans le monde du travail ?
Oui, même si je vois l'influence des témoignages de type MeToo et les effets de la loi du 23 août 2018 qui légitimisent d'autant plus de ne plus laisser passer.
Mais il y a encore des réflexes aujourd'hui, voilà, des personnes qui font ces blagues sans effectivement se rendre compte qu'elles peuvent faire mal, qu'elles peuvent avoir un impact.
Oui, notamment sous couvert d'humour, en fait, hein, et qui ne se rendent pas compte des habitudes que l'on a intégrées et n'étant pas eux-mêmes ou elles-mêmes dans ces situations, ou bien ayant de leur côté trouvé des stratagèmes pour dépasser ces situations, ne voient pas forcément ce que ça peut impliquer chez leurs proches collègues.
Ouais, c'est ça. Mais par contre, cet atelier de la fresque du sexisme, lui, est-ce que ça permet durablement peut-être de convaincre ces personnes, ou en tout cas de leur faire prendre conscience de cette problématique ?
Oui, on voit les choses bouger pendant l'atelier. J'ai vu notamment des personnes qui eux-mêmes étaient capables de se rendre compte comment leur attitude en début d'atelier était des réflexes de résistance et finalement des... se rendaient eux-mêmes compte en fait à quel endroit ils exerçaient des formes de domination dans ces manières-là de faire, quoi.
Ouais, donc véritablement cet outil permet cette prise de conscience. Est-ce que ça peut être aussi pour eux un petit peu douloureux de se rendre compte tout d'un coup que leur comportement n'est pas adéquat?
Douloureux. Après les expressions de d'émotions qu'on entend souvent, c'est de part et d'autre, enfin, je veux dire, homme comme femme, c'est la colère. Et chez les hommes, on entend des notions de culpabilité ou de honte. En revanche, de ce que m'inspire, ce qu'on a pu vivre ensemble dans différents ateliers, le mot douloureux, en fait, il y a plus de tendresse que ça. C'est le fait de se rendre compte, ça génère quelque chose de positif, en fait. C'est pas une douleur négative. Ça devient plutôt quelque chose de positif et éventuellement moteur.
On a parlé un petit peu des progressions possibles justement au cours de ces ateliers et puis qui vont porter leurs fruits sans doute après. Mais est-ce que pour autant il y a aussi parfois des attitudes de déni, voire de refus de certains publics par rapport à ces ateliers ou à leur contenu ou à des moments précis dans ces ateliers?
Oui, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure. Dans le premier lot, comme on est sur du vocabulaire et les mots peuvent être barbelés, donc là, on voit bien que ça, régulièrement, j'ai vécu que ça générait des réactions. Et après, ces réactions, elles sont intéressantes et j'ai vu de même des personnes changer de positionnement vis-à-vis de sujets, notamment grâce au déroulé, parce que le déroulé, il fait apparaître les choses concrètement au-delà de mots et de définitions, notamment parce qu'on vit quelque chose et donc on voit les personnes autour de la table aussi cheminer. Donc il y a ça. Il y a des comportements, on va dire, avec des gens qui ont des idées éventuellement préconçues Et puis après, je pense que, et dans ces cas-là, là aussi, l'expérience du facilitateur ou de la facilitatrice compte. Il me semble que si dans les autres fresques, on n'est pas obligé d'être spécialiste du sujet, hein, j'en pense à la fresque du climat, on n'est pas climatologue, mais voilà, on a les outils pour pouvoir l'animer. Là, c'est quand même, je pense, nécessaire et utile que d'avoir une bonne culture du sujet pour pouvoir rebondir et poser des cadres aussi, poser des limites, parce que il est important que toujours la sécurité du groupe elle soit assurée pour que ça se passe bien.
Ouais, savoir parer effectivement à des réactions qui peuvent être assez assez différentes selon les publics. Le fait que ça se passe en mixité, c'est aussi un atout forcément. On n'est pas qu'avec des hommes ou qu'avec des femmes. On peut mixer les deux genres et du coup, est-ce que ça amène des choses aussi intéressantes dans le respect, dans la compréhension?
Oui, j'ai eu aussi animé des ateliers qui étaient 100% masculins et c'était aussi très intéressant, notamment dans les leviers d'action. Il y avait des propositions qui étaient très intéressantes et c'était vraiment agréable à voir et c'était très enrichissant aussi. Enfin, je n'ai pas forcément envie de donner des exemples concrets.
Oui, j'allais vous en demander, mais voilà.
En fait, à la fin, quand je sens que le groupe... le fait qu'ils étaient entre hommes, ils étaient à l'aise en revanche. Il y avait tout ce qui se passait en termes de compréhension, en termes d'expression des sentiments. Bon, voilà, ça se passait de manière équivalente. En revanche, arrivé au moment de la mise en situation... ils étaient à l'aise et j'ai pu leur faire faire un peu de théâtre forum et donc de leur faire vivre des situations. Et dans ces situations-là, y a des choses qui sont ressorties qui étaient très chouettes. C'est les temps en non-mixité pour les femmes sont nécessaires et indispensables politiquement.
Oui.
Mais pour les hommes, je pense que socialement, ils ont peut-être des choses au-delà du... du club cigare ou du boys club sur la manière d'apprendre à parler de soi, à échanger justement sur ses émotions. Et y a des choses comme ça qui se développent pour les hommes et elles sont bien accueillies aussi dans ce qu'on appelle les tentes bleues, l'équivalent des tentes rouges, qui justement sont des espaces où, pour que eux aussi puissent échanger sur ce qui les oppresse de ce système sexiste.
Alors, pour se renseigner sur la possibilité de participer à ces ateliers, mais aussi de creuser leur contenu, est-ce que vous pourriez peut-être indiquer à nos auditeurs et auditrices peut-être la marche à suivre? Est-ce qu'il y a des références? Est-ce qu'on peut se rendre sur certains sites?
Alors, en ce qui concerne la fresque du sexisme, il y a le site et une adresse mail. L'adresse mail, c'est contact@fresque-du-sexisme.org.
Et donc, il y a également, si on tape dans un moteur de recherche, si on tape fresque du sexisme, on va tomber également sur le site dédié.
Oui, sur le site, avec notamment les ateliers qui sont programmés. Et on a aussi des ateliers en ligne, ce qui m'a permis notamment de proposer l'atelier au Québec et à Tahiti.
Très bien, vous allez voyager. C'est parfait.
Voilà, exactement. Et c'est vraiment un outil qui a été très, très bien conçu pour le suivre en ligne aussi. Donc ça peut peut-être s'adapter à des emplois du temps plus contraints.
Très bien. C'est noté. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Kergosien. Je rappelle que vous êtes consultante, formatrice et conférencière à MNKSCOP à Vannes et facilitatrice de la fresque du sexisme dont on vient de parler. Notre magazine, Plus d'excuses, est en diffusion sur les radios associatives locales de la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, également sur Radio Boa, leur émanation régionale en DAB+, en podcast également sur le site de la CORLAB, le site corlab.org et celui de Radio Boa. À bientôt donc pour un nouvel épisode de cette série dédiée aux actions de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail et plus largement à l'égalité. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin des autres.
C'était Plus d'excuses, un magazine produit par la CORLAB et Radio Boa avec le soutien de la Région Bretagne, de la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. en partenariat avec la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la mission STURM et les CIDFF, le réseau des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.